Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs. Voilà, et bien pour cette émission sur cette nouvelle épisode de C'est par où la sortie, nous allons accueillir tout à l'heure le président de l'association Courriel, défenseur de la langue française, un philosophe engagé, pour faire honneur à ce slogan qui faisait florès au moment des années 60, la dialectique Castel des briques. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de se demander. Voilà, donc bonjour Georges Gastaud. Je vous représente quand même rapidement. Donc Georges Gastaud, il est enseignant en philosophie. Il a enseigné dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Fils de résistant. C'est quelqu'un d'engagé. Il participe notamment au pôle pour la Renaissance communiste en France. Et il a également, donc comme on en a parlé, il est président de l'association Courriel, association de défense de la langue française, qui, je pense d'ailleurs, doit être un petit peu remonté face au tout anglais qui conquiert petit à petit nos rues. Bonjour Georges.
Voilà, vous l'avez très bien dit, oui, effectivement, c'est tout ça, c'est un ensemble, effectivement, de résistance à toutes les aliénations.
En effet. Voilà, alors si on vous a appelé aujourd'hui, c'était pour... vous venez de sortir une immense somme qui s'appelle Lumière commune. Donc, vous allez pouvoir nous expliquer ce que ça signifie. Sous-titré, traité de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique. Alors, avant que les auditeurs se jettent sur le bouton pour changer de fréquence en se disant, oula, de la philo, je vais avoir mal à la tête, peut-être que on peut un petit peu, à la manière de Politzer, expliquer que la philosophie, c'est pour tout le monde. Et peut-être, vous pouvez nous présenter votre... Le contenu de cette grande somme qui est parue en 2016 chez Delga.
Eh bien, volontiers, oui, bien sûr. Donc, le titre, Lumière commune, pour commencer. Les Lumières, c'est quand même la partie peut-être la plus importante et la plus intéressante de l'histoire de France. Et les Lumières communes, ça renvoie à la Commune de Paris, à mes yeux, mais d'une façon plus large, au partage. Et les Lumières ne valent que d'être partagées, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour combattre les préjugés et permettre l'émancipation des peuples, de tout le monde, pas simplement des intellectuels, mais de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont besoin de s'affranchir de l'exploitation, de l'oppression dont ils sont victimes. Voilà, c'est le projet. Alors, le sous-titre, peut-être en un mot, simplement, pendant longtemps, le matérialisme dialectique, qui était la philosophie du marxisme, qui l'est toujours, a été exclu, a été méprisé de toutes les façons possibles et imaginables. Et mon idée, c'est que, tant que ce sera le cas, effectivement, les Lumières seront en danger et l'irrationalisme, les préjugés, l'obscurantisme qu'on voit renaître de toutes les façons possibles et imaginables ces derniers temps auront la partie belle. Donc, il me semble nécessaire d'associer les deux, les Lumières communes et la Renaissance, en gros, de la philosophie marxiste, pour le dire très brièvement.
En effet, c'est vrai qu'on a parfois le sentiment, moi-même ça m'arrive de le dire dans ma propre discipline, hein, j'enseigne les sciences économiques, et voilà, il m'arrive de dire qu'on est en fait dans une sorte de nouveau féodalisme, de nouveau Moyen-Âge, où en effet certains, alors d'un côté on a des dogmes donc par exemple dans ma science, hein, c'est certains aspects sont proches de la croyance religieuse, et de l'autre bien sûr de la renaissance de croyances ou de formes d'obscurantisme. Est-ce que justement lequel pour vous a été quel exemple marquant de cet obscurantisme vous pouvez peut-être pointer aujourd'hui?
Ah bien aujourd'hui, si vous voulez, il y a un obscurantisme à l'ancienne qui est en train de renaître, hein, et de se développer, puisque nous sommes quand même sous l'égide de la renaissance des formes les plus fanatiques du religieux, le retour du religieux, n'est-ce pas, sous toutes les formes. Bon, ça, c'est peut-être pas la peine que je développe, parce que tout le monde pense à toute une série d'exemples sanglants, et c'est pas à Nice que je vais vous apprendre le danger de ce genre de choses. Mais au-delà de ça, il y a aussi un obscurantisme entre guillemets moderne, effectivement, dans le domaine peut-être de l'économie, mais dans bien d'autres domaines aussi, puisque on essaie, par exemple, sans arrêt, de nous faire croire que les choses ont une valeur indépendamment du travail. Pendant toute la campagne électorale, on nous a expliqué que l'avenir, c'était plus le travail, que donc on pouvait se passer du travail et que ça serait désormais je ne sais pas moi, par la vertu du Saint-Esprit, que la richesse allait se créer. Or, la richesse économique a toujours été liée, d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, au travail. Et bon, le nier, c'est tomber dans une espèce de croyance magique, selon laquelle, au fond, la richesse, l'argent produit l'argent. Hein, bon, voilà. Ça, c'est la croyance magique fondamentale des financiers modernes. On comprend pourquoi ils développent cette croyance, elle les arrange profondément. Mais évidemment, derrière tout cela, il y a des souffrances humaines colossales. Voilà. Donc moi, c'est ça que je veux combattre.
En effet. Et voilà, donc, votre ouvrage, en fait, donc, c'est une sorte de c'est un traité, un ouvrage qui retrace un peu toute l'histoire de la discipline philosophique. Qui est extrêmement riche. Hein. On part d'auteurs, enfin, ça foisonne d'auteurs, voilà, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je vous citais même, je sais pas, en tombant, voilà, même des personnes qui sont loin d'être des auteurs, hein, des auteurs, des philosophes, comme Vincent Payon, par exemple. Je viens de tomber en tournant une page sur lui. Mais voilà, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter, bah, quelles seraient les grandes lignes des questions philosophiques, en fait, depuis l'existence de cette discipline?
Oui, alors ça va être un petit peu compliqué quand même, en peu de temps. Mm-hmm. Mais disons qu'en gros, je pense que la philosophie a commencé tout simplement par se poser la question de savoir ce que c'était que la réalité. Qu'est-ce que c'est que être, hein? Bon, vieille question, mais après tout, c'est celle qui se pose à tout être humain, puisque nous existons. Et donc, quel est le sens de notre existence? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et quel est le sens que nous donnons à notre existence? Bon, c'est en gros la question centrale de la philosophie que nous retrouvons sous toutes ses formes. Et à cette question, on peut répondre soit d'une façon rationnelle, que j'appelle matérialiste, soit d'une manière irrationnelle. C'est ce que font la plupart des conceptions magiques ou les conceptions religieuses quand elles tendent elles-mêmes vers la magie, parce que bon, il y a aussi quand même des développements intelligents dans le cadre des religions. Et donc voilà, la philosophie a essayé de dévider ce fil à travers des questions telles que qu'est-ce que l'être, qu'est-ce que connaître la réalité, que pouvons-nous espérer et dans quel sens devons-nous agir. Tout homme doit se poser ces questions, et de fait, quand on ne se les pose pas ces questions, nous y répondons, mais nous n'y répondons pas d'une manière active, d'une manière éclairée. Nous y répondons sous l'emprise des idéologies dominantes qui nous imposent à la fois la façon de poser les réponses, les questions et la façon de répondre. Bon, bref, philosopher, c'est se poser ces questions-là d'une manière active, systématique, méthodique, si possible collective, en faisant circuler l'esprit critique entre nous tous pour trouver des réponses constructives.
Je me permets d'intervenir. C'est moi qui ai chanté tout à l'heure, vous reconnaissez
ma
voix.
Mais c'est très bien, bravo. Je pourrais même vous suggérer de mettre plutôt que merci patron ou merci Macron, merci Macron.
Allez, tiens. Je prends note, mais bon, c'est une œuvre collective, je soumettrai aux autres qui ont participé, Thierry,
bravo,
Hélène et Alice.
Très belle chanson.
Oui, j'intervenais par rapport à vos propos. Thucydide, en 400 avant Jésus-Christ, déclare se reposer ou être libre. Est-ce qu'en fin de compte, il avait pas raison? Et alors, je dis pas qu'on est dans une société de feignants, mais on est dans une société où la notion d'effort, elle est vantée dans un certain sens et assujettie à cette notion absurde de mérite, alors que on sait très bien que la liberté, la recherche de connaissances, l'émancipation, c'est du boulot.
Et oui, en effet. Oui, tout à fait. Bon, on nous incite sans arrêt. Pardon, on nous incite sans arrêt à nous reposer là où il nous faudrait au contraire travailler, et à travailler là où il faudrait peut-être au contraire qu'on se repose un peu plus. Autrement dit, travailler comme des fous pour produire du profit à l'usage du patronat, et en revanche, lorsque vous êtes chez vous, et bien là, cessez de réfléchir et consommez passivement tous les produits culturels que l'on vous demande de consommer. Bon, et bien peut-être qu'on pourrait inverser un petit peu les choses et se laisser un petit peu moins exploiter au boulot, et au contraire faire un peu plus marcher les quelques 100 milliards de cellules que nous avons entre les deux oreilles.
que les gens qui nous écoutent du parti Les Républicains ne se méprennent pas. Dans mon propos, il ne s'agit pas de supprimer les 35 heures. Hein. Ça serait plutôt d'imposer les 32.
Hein, bon, ouais.
Je sais, pour les rassurer, il y en a peut-être quelques-uns qui se sont paumés dans les ondes et qui sont tombés sur nous.
Ce que vous venez de dire me fait penser à l'aphorisme de Kluskar qui disait, donc, pour caractériser ce qu'il appelait le néofascisme qui vient, en fait, qui se développe comme un processus, hein, pas comme un état final, qu'il était, donc, de mémoire, répressif pour le producteur et permissif pour le consommateur. Peut-être.
Oui. C'est ça, bon, en tant que consommateur, nous sommes flattés sans arrêt, hein, donc c'est le désir qui est toujours bien avant. Bien entendu, ce désir est formaté en amont par les publicitaires, par la consommation et ainsi de suite. Et à l'inverse, bien sûr, eh bien, au niveau du travail, c'est la répression qui l'emporte de plus en plus, la directivité, le fait que nous sommes sans cesse contrôlés, fliqués, suivis à domicile sur nos appareils, sur nos ordinateurs et ainsi de suite. Bon, voilà, donc les choses marchent complètement à l'envers aussi de ce côté-là. Peut-être, après tout, serait-il meilleur que nous ayons un petit peu moins d'attitude consommatrice et un petit peu plus d'attitude rebelle au travail comme ailleurs, quoi. Et ça permettrait d'accéder à l'existence dans ce qu'elle a de non-consommateur, qui est justement la plupart du temps ce qui est le plus intéressant. Là, en ce moment, je suis en train de regarder par la fenêtre. Je vois les premiers bourgeons de cerises qui apparaissent sur un arbre en face de moi, et bien tout ça c'est gratuit. Encore heureux, d'ailleurs. Le temps des cerises, ils ne l'ont pas encore vendu, en quelque sorte.
En effet. Alors, on va revenir un petit peu à la philosophie pour essayer de un petit peu de creuser un petit peu ça.
On y était quand même. Hein.
De comprendre, oui, on était dedans en réalité, hein, mais de comprendre ce que ça signifie que cette histoire de matérialisme et que cette histoire de dialectique qui font les deux mots d'une philosophie que vous défendez et qui me paraît particulièrement pertinente et riche. Je vais démarrer par ça. Le matérialisme a toujours été dans l'histoire de la philosophie, qui a beau être une science à la recherche de la vérité, le matérialisme a quand même toujours semblé plutôt être dominé dans les courants de philosophie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ?
Et oui, eh bien, le matérialisme, comme son nom l'indique, c'est le courant philosophique qui dit que la matière, la nature, si vous préférez, peut très bien se débrouiller toute seule sans avoir besoin de l'intervention des dieux. C'est Épicure déjà qui disait au fond que voilà, on peut comprendre la nature par elle-même, on peut comprendre comment les transformations de la réalité s'opèrent d'une façon rationnelle sans qu'interviennent sans cesse des puissances surnaturelles. Alors ça, évidemment, ça ne plaisait pas aux religions en place, et les religions en place étaient elles-mêmes liées au pouvoir politique en place. Donc on peut comprendre que le matérialisme, celui d'Épicure, celui de Diderot au XVIIIe siècle, celui de Marx au XIXe et ainsi de suite, ait été systématiquement réprimé ou persécuté, puisque, évidemment, il contestait les puissances idéologiques dominantes. Donc, du coup, les puissances matérielles dominantes, les riches, les gens qui avaient du pouvoir et qui dominaient aussi la production, les échanges et ainsi de suite. Bon, il y a toujours eu une alliance, en gros, du trône et de l'autel, comme on disait avant la Révolution française. Et donc chacun a défendu l'autre. Le trône a défendu l'autel, et l'autel, pas au sens des hôteliers, bien entendu, l'autel au sens religieux, a toujours défendu le pouvoir en place. Voilà, donc le matérialisme a souvent été défendu par des révolutionnaires. Hein. Diderot était révolutionnaire pour son époque, et Marx par la suite, pour ne prendre que ces deux exemples.
En effet. Et aujourd'hui, est-ce que pourquoi est-ce que ce matérialisme est en recul ? Est-ce qu'il est en recul d'ailleurs ? Est-ce que qu'est-ce qui peut expliquer le fait que, par exemple, est-ce qu'il est présent dans les programmes de nos chères têtes blondes qui vont passer le bac dans quelques semaines ?
Alors, il peut l'être, hein, parce que les professeurs de philo, quand même, pour la plupart, font leur travail, et le travail tel qu'ils le pensent, de façon, disons, libre. Il y a bien la matière et l'esprit qui figurent encore au programme de philosophie, donc on peut parler encore en France de matérialisme et d'idéalisme. Cela dit, ce n'est pas évidemment central dans les problématiques qui sont la plupart du temps offertes au sujet de baccalauréat, mais cela étant, il est tout à fait possible à notre époque de considérer que le matérialisme n'a jamais été aussi fort. simplement, il n'a pas, je dirais, la philosophie officielle qu'il mérite. Si on regarde les progrès de la physique, de la chimie, de l'astrophysique, de la biologie et que sais-je encore, on s'aperçoit que les découvertes matérialistes sont proprement stupéfiantes. Et bon, le problème, c'est que il y a un énorme décalage entre le matérialisme des sciences qui avance et le combat antimatérialiste de toutes sortes de philosophes officiels qui monopolisent les écrans, qui accaparent les émissions de télé, de radio, etc. Pas les vôtres, évidemment. Mais bon, voilà, donc moi j'essaie de réduire cette fracture philosophique entre les avancées scientifiques qui vont dans le sens du matérialisme globalement et l'écho philosophique qui leur est donné et qui est tout à fait contraire à cela. Hein, voilà. Mais enfin, c'est un peu comme dans le domaine politique où, si vous voulez, tout est fait pour que les luttes sociales, par exemple, qui sont fortes dans notre pays, ne trouvent pas le débouché politique qui est le leur. Hein, c'est tout à fait étonnant. Il y a beaucoup de luttes sociales dans notre pays et on voit, par contre, le résultat des élections. Le décalage entre les deux est flagrant. Eh bien, il en va un peu de même entre le matérialisme des sciences et sa représentation par la philosophie officielle qui n'est pas du tout matérialiste. Je ne citerai aucun nom, mais enfin, on peut penser à certains philosophes qui se font régulièrement entarter et qui ne sont pas spécialement matérialistes.
Je vais le citer pour vous, donc il s'agissait de Bernard-Henri Lévy, voilà, qui a reçu une tarte croate, je crois, récemment.
Ah, mais il navigue de tarte à tarte, c'est magnifique. C'est ça.
Très bien. Eh bien, je vous propose de prolonger cette discussion après le journal régional. On se retrouve donc dans une dizaine de minutes pour cette fois expliquer ce que c'est que la dialectique. Et donc, matérialisme et dialectique un petit peu plus clair, eh bien, on les mettra ensemble et on verra à quoi ça peut nous servir quotidiennement pour réfléchir aux problèmes que l'on rencontre. À tout de suite.
À tout de suite.
Vous écoutez Agora Côte d'Azur. Les informations régionales, Vicky Bérardi.
Les informations régionales de la rédaction, bonjour à tous. Une édition proposée et préparée par Manuel Delaval et Anaïs Marciano. Bonjour Anaïs.
Bonjour Vicky, aujourd'hui c'est J-1 avant le début du prestigieux Festival de Cannes. Pour cette 70e du Festival cinématographique, c'est Pedro Almodovar, le réalisateur, scénariste, producteur espagnol dont la renommée n'est plus à faire, qui présidera le jury. À ses côtés, il y aura Maren Haid, Jessica Chastain, Fan Bingbing, Park Chan-wook, Will Smith, Paolo Sorrentino et deux Français, Gabriel Yared et Anes Jaoui. La cérémonie d'ouverture au Palais des Festivals, salle Grand Théâtre Lumière, sera demain. La première projection sera celle du film Les Fantômes d'Ismaël par Arnaud Desplanchin à 19h15. Elle sera d'ailleurs rediffusée au cinéma La Coupole de la Gaude et au cinéma de Beaulieu-sur-Mer. Thierry Frémaux, délégué général du festival.
La célébration du 70e et la sélection, ça n'a rien à voir. La sélection, elle suit son cours comme chaque année. Elle est faite avec en particulier la production mondiale qui nous est proposée. Et donc, en effet, des films prêts, des films pas prêts. Tout n'est pas prêt. La question, elle est qu'on voit les films qui nous sont présentés. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. Les films sont là et à partir de ce qu'on nous présente, on fait la sélection.
Pedro Almodovar était venu plusieurs fois à Cannes chercher la fameuse Palme d'Or. Il n'aura pas celle du 70e anniversaire puisqu'il est président du jury, mais c'est un beau cadeau aussi.
Non, mais surtout, c'est un grand cinéaste, évidemment. C'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire du Festival de Cannes. Et on est assez content pour le 70e anniversaire d'avoir un président qui soit ni français ni américain, qui sont les deux nations qui ont marqué le Festival de Cannes et qui parle une autre langue, qui vient d'une autre culture, qui est quand même européen. Hein, et on est très heureux qu'il soit là.
Avec un beau jury. Hein.
Avec un jury qui est je pense qu'il est, beau. En tout cas, c'est un jury qui, encore une fois, essaie de faire en sorte de faire comprendre qu'il y a des gens qui ont des images. Par exemple, les gens me disent, là, Will Smith qui est dans les blockbusters. Et Will Smith, c'est un cinéphile, il a envie de passer 12 jours à Cannes et de voir les films d'auteur et de faire partie aussi de cette aventure-là, qui en effet ne correspond pas à son image. Et ben, c'est très bien qu'il soit là aussi pour casser cette image-là.
Demain débutera l'exposition Cannes fait le mur en partenariat avec Paris Match. Des grands formats de célébrités du grand écran seront affichés sur des bâches aériennes le long de la rue d'Antibes et à la gare. L'exposition est bien sûr dans le cadre du 70e anniversaire du Festival de Cannes. Le thème, 70 ans de fête et de bonheur.
Venez découvrir les films primés aux 24 heures des réalisations 2017. La Fédération française des MJC et la MJC Pico proposent en effet une projection des films lauréats ce jeudi 18 mai à 19h à Cannes. La soirée commencera avec le Grand Prix Le Bruit du Silence, suivi par le prix Coup de cœur, l'ouverture au monde extraordinaire. Puis pour la première fois, un prix public sera décerné. Être père, en tout cas, c'est un scrutin expliqué par Anne-Marie Bourouille, co-directrice de la FFMJC.
Voilà, oui, donc, c'est nouveau cette année parce que nous avons souhaité aussi élargir finalement les récompenses qu'on peut attribuer aux équipes de jeunes qui participent. Et donc du coup, on a inventé cette idée du prix du public. Bien sûr, puisque nous sommes dispersés dans toute la France, il fallait trouver un moyen que nous permet le numérique aujourd'hui. Donc en fait, nous avons procédé par un appel sur notre page Facebook. Donc puisque la Fédération française des MJC actualise quotidiennement sa page Facebook, ça nous a permis de lancer cet appel. Nous considérons que cette page est suffisamment lue par nos adhérents et qu'elle a été également relayée par toutes les équipes qui ont participé aux 24 heures des réalisations. Et du coup, il y a eu une audience assez forte et une réponse très large du public.
Politique et législative dans la 8e circonscription des Alpes-Maritimes, qui comprend Cannes, Mandelieu, Théoule et même Valoris, les Insoumis entrent en campagne. C'est Maddy Vard et Luc Buasseau, son suppléant, qui brigueront le mandat parisien. En effet, les bons scores de Jean-Luc Mélenchon laissent espérer un siège à l'Assemblée. Et pour rassembler davantage, ils organisent des rendez-vous hebdomadaires au centre social de la Verrerie tous les mercredis soirs. Des réunions dont le programme est expliqué par la candidate elle-même, Maddy Vard.
Il y en avait beaucoup qui venaient pour la présidentielle. On a pu tracter, coller des affiches, parler du programme un peu à tout le monde. Et maintenant, il y en a qui nous rejoignent pour les législatives, pour nous aider aussi à tracter, à parler aux gens qui leur expliquaient les législatives, le programme de la France insoumise. Et nous présenter, nous aussi, pour qu'on vote pour nous le 11 juin et le 18 juin. Qu'on espère, c'est gagner. On se présente pas quelque part en disant on va perdre et on espère perdre. Donc c'est gagner, c'est de faire le plus de voix possible. À la présidentielle, JLM est arrivé 3e, moi, dans le bureau de vote où j'étais, puisque j'étais déléguée et que j'ai assisté au dépouillement. Il est arrivé 3e, derrière Marine Le Pen, Fillon. Ensuite, c'était Mélenchon et ensuite, c'était Macron. Donc, il a quand même fait un score, exceptionnel pour la région où on est, qui sont vraiment très droites, hein, puisque c'est Fillon qui a gagné dans la région au premier tour, bien sûr. Et maintenant, on espère récupérer toutes ces voix, tous ces votes qui se sont reportés sur Mélenchon, on espère les récupérer pour les législatives.
À 18h15 demain, place Garibaldi à Nice, un rassemblement public organisé dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, pendant lequel 3 artistes réaliseront une fresque au sol. Un rassemblement important pour la cause de la communauté LGBT, surtout en vue du contexte géopolitique actuel.
À partir d'aujourd'hui, dans la Villa Saint-Hilaire de Grasse, l'atelier Voir s'expose en continu jusqu'au 8 juillet. Dans cette série, Marielle l'ingénieur nous révèle une identité photographique singulière, objectif de l'émergence d'une démarche personnelle.
Ce soir, jeudi et vendredi, 2 spectacles par jour à 18h15 et 20h30 pour fêter les 20 ans des écoles chantantes de Grasse. 535 petits choristes défileront dans les écoles maternelles et élémentaires du pays grassois pour présenter le voyage de Mister Tom, accompagné par l'orchestre du conservatoire. Ce soir, ils seront donc à l'école élémentaire Saint-Jacques et à l'école maternelle Les Jasmins pour 18h15 et à 20h30 à l'école maternelle Les Cigales Saint-Jacques et à l'école élémentaire Saint-François. Une représentation en partenariat avec le Théâtre de Grasse.
La compagnie du théâtre Entre nous de Grasse présente Les Forains, la comédie féroce de Stéphane Ivostovitch, le samedi 20 mai à 20h30 à l'espace culturel et sportif du Val-de-Siagne. L'occasion de voir une pièce récompensée par le 2e prix de la région PACA, mais surtout l'histoire d'un conflit entre les socialisés du dehors et les asociaux du dedans. Un conflit donc qui va faire naître des échanges très cocasses.
Ce jeudi, l'association Coopérative Chanson organise une performance au Diane's Bar à Potes de Nice. Christelle Gibilaro, auteur de l'écrimoire, lira des extraits de son recueil. Ses droits d'auteur seront reversés à l'association Un enfant par la main. Séverine Donimal clôturera cette soirée caritative par un concert jazzy et funky. Christelle Gibilaro, auteure de L'Écrimoire.
Alors en fait, on sera trois amis autour des mots et de la musique. C'est vraiment une formation éphémère, puisque donc moi je ferai des lectures de mes textes, donc qui sont des poèmes ou des extraits de mon ouvrage. Et puis il y aura aussi Séverine au chant et Philippe à la guitare. Donc voilà, ce sera vraiment un mélange de mots et de musique entre amis. C'est vraiment le but de ce projet. Alors l'intégralité des ventes n'est pas reversée, uniquement mes droits d'auteur. C'est-à-dire ce qui me revient va directement à l'association. À cette occasion, donc jeudi, je dédicacerai également ce livre, puisque c'est vraiment mon but de faire connaître l'association et de reverser un petit peu d'argent, voilà, pour les enfants.
Sur la scène du Chapco à Nice, à partir de 21h45, le groupe Blues Rock Folk, Claudio Citarella and Friends, jouera en live. La prestation sera, comme d'habitude, suivie d'un after jam.
Merci Anaïs Marciano, et à partir de jeudi et pendant toute la durée du Festival de Cannes, le journal régional ne sera diffusé qu'à 13h15 et à 18h30. Vous pourrez cependant profiter de l'émission La Passion du 7e Art par Vicky Berardi en direct du Palais des Festivals entre midi et 13h. En tout cas, pour l'instant, c'est la fin de cette édition régionale. Merci à vous de lui avoir accordé toute votre attention. Et puisqu'aujourd'hui nous sommes mardi, vous retrouverez à 19h l'émission L'Oreille qui gratte par Simon Pégurier et Benoît Belasco, suivi à 21h de Rock Intimity. Merci à tous.
Agora Côte d'Azur. La radio d'actualité locale, régionale et internationale en continu. Agora Côte d'Azur.
Où la sortie?
Eh bien, nous revoici donc avec Georges Gasteau, philosophe, pour évoquer son ouvrage, notamment Lumière commune, paru chez Delga en 2016. Nous avions donc commencé à expliquer, à discuter de ce qu'était le matérialisme, de ce qu'étaient les lumières, bien sûr, déjà, et de ce qu'était le matérialisme, dont on rappellera, même si on les trois traits essentiels sur lesquels on va redémarrer, qui était en gros que c'est l'esprit qui crée la matière, que le monde également n'existe pas en dehors de notre pensée, et que ce sont nos idées qui créent les choses. Alors, je précise qu'on n'a pas, bien sûr, on n'avait pas évoqué ces trois points en début, mais je redémarre avec ces trois points-là, qui définissent en fait ce qu'est l'idéalisme. L'esprit crée la matière, et pas la matière, Dieu crée la matière, par exemple. Le monde n'existe pas en dehors de notre pensée, ça c'est pour les plus farouches idéalistes. L'idée que tout ce qui est extérieur, c'est une création de notre esprit uniquement, et pas une réalité matérielle qui existe en dehors de nous. Et enfin, que ce sont nos idées qui créent les choses. Ça, c'est un truc qu'on retrouve très très souvent. Par exemple, pour prendre ma discipline, l'économie, quand on va dire que c'est Adam Smith qui a inventé le capitalisme. Eh bien, je fais mon insulte et je laisse la parole à Georges pour réagir à ça, en disant que, bien sûr, par exemple, le capitalisme que décrit Adam Smith existe déjà parce qu'il est en train de le décrire. Donc c'est bien un fait matériel qui préexiste et donc qui nous permet d'avoir conscience de cette chose. Alors Georges, donc face à ces trois affirmations donc des idéalistes, quelles sont donc les trois réponses qu'avaient apportées les matérialistes, et voilà. Allons-y.
Eh bien, beaucoup de gens vont se trouver matérialistes sans le savoir, quoi. Tout simplement.
Exactement.
Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre nous pensent, parce que la science le leur a enseigné, que, eh bien, par exemple, les espèces vivantes sont le produit d'une évolution matérielle et non pas le produit d'une création divine. On peut toujours croire, bien entendu, au déluge ou à des choses de ce genre. Mais nous savons, aujourd'hui ce n'est pas une question de foi, nous savons que les faits d'évolution sont là et que les espèces se sont transformées au cours d'une longue évolution, donc d'une longue transformation qui a des causes matérielles. Et par exemple, deuxième aspect, pour aller très vite, hein, que le monde existe en dehors de nous, qui en doute sérieusement, si vous voulez, sauf à croire qu'effectivement, il suffit de penser que quelque chose n'existe pas pour que cette chose disparaisse, ce qui est la croyance magique de base.
La stratégie de l'autruche.
Bien que lorsque quelque chose apparaît dans un chapeau ou en disparaît à tel ou tel moment dans un spectacle de cirque, c'est parce que le monsieur qui tient le chapeau est un prestidigitateur et non pas un magicien en réalité. Donc le lapin, on l'y a mis. Hein. Voilà, donc en gros, ce n'est pas notre pensée qui produit les choses, c'est plutôt notre pensée qui doit s'adapter aux choses, qui doit penser les choses telles qu'elles sont, et ça, ça s'appelle la raison, ça s'appelle la science. Voilà, donc d'une façon globale, je résumerai le matérialisme par une vieille formule qui n'est ni de Marx, ni de Lénine, ni de gens comme ça, mais qui est déjà très dialectique. C'est une formule de Lavoisier, le fondateur français de la chimie, qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La matière a en elle-même ses propres lois, et le rôle de notre pensée n'est pas de les inventer, le rôle de notre pensée est de découvrir ces lois. Et après, bien entendu, de les mettre à profit pour que la vie humaine soit plus agréable. Ça, ça s'appelle la technique, ou dans le domaine politique, dans le domaine social, eh bien, ça s'appelle effectivement l'action militante. Voilà, donc d'une manière générale, le matérialisme, c'est ce qui considère qu'il faut rendre à la nature ce qui lui revient. On peut le résumer aussi, cet esprit du matérialisme, par une formule d'un matérialiste anglais qui s'appelait Bacon, et qui disait « on ne commande à la nature qu'en lui obéissant ». Autrement dit, il faut trouver quelles sont les lois de la nature et à partir de là, bon, utiliser ces lois pour faciliter la vie humaine et d'une façon générale faire en sorte que quand on connaît la loi de la pesanteur et quelques autres bricoles comme ça, on puisse fabriquer des avions qui volent. C'est pas magique. Ça repose sur les lois de la physique. Je ne sais pas si je suis clair en disant tout ça.
Si, si, parfaitement. Parfaitement. Un autre débat qui a été très important dans l'histoire de la philosophie et auquel vous consacrez d'ailleurs le tome 2, hein, c'est la question de la connaissance. Puis-je connaître ? Que peut-on connaître ? Si on a le temps, on évoquera l'autre question qui est celle que vont apporter les matérialistes, qui sera celle du que faire. Mais on y reviendra peut-être à la fin. Donc, que puis-je connaître ? Qu'affirme le matérialisme dialectique et à quoi est-ce qu'il peut s'opposer ? À quoi il s'oppose ?
Eh bien, bon, le matérialisme dialectique, en fait, ne met aucune frontière définitive à la connaissance humaine. Nous partons du fait que l'être humain est lui-même un produit de l'évolution de la matière. Donc que notre esprit lui-même est le résultat de millions et de millions d'années d'évolution, de pratiques diverses aussi. Le travail humain est passé par là. Nous avons appris à maîtriser le monde parce que quand nous ne le maîtrisions pas, eh bien, les arbres nous tombaient sur la tête quand nous les coupions du mauvais côté ou d'autres bricoles comme celle-là. Et donc la raison humaine elle-même s'est formée au contact des choses dans la pratique et par la pratique. Et par conséquent, comme elle est issue du monde et comme elle apprend à s'y faire et à le maîtriser petit à petit, pourquoi y aurait-il des frontières absolues à la connaissance humaine ? Ça ne veut pas dire que nous connaissions tout, bien sûr. Hein. La matière, justement, comme la matière est extérieure à nous et qu'elle était là avant nous et qu'elle sera là sans doute après nous quand l'être humain aura disparu, bien sûr qu'elle est très difficile à connaître. Elle est multiple, elle est infinie dans ses manifestations. Elle est très riche, d'ailleurs, c'est pas la peine d'aller chercher des mythes religieux, magique, du surnaturel, bon marché, pour trouver des choses extraordinaires. Hein. Bon, les trous noirs communiquent entre eux, il y a des trous de verre, c'est extraordinaire si on étudie un petit peu la cosmologie moderne. Mais bon, tout cela, évidemment, peut être connu petit à petit par le biais de la science, par le biais des techniques, par le biais aussi tout simplement dans la vie humaine courante. De l'observation, hein. Les ouvriers, les artisans, les paysans ne sont pas des ignorants et ils, à force de manier les objets qui sont autour d'eux, la nature qui est autour d'eux, la matière première, eh bien, ils la connaissent. Hein, ils la connaissent. Il n'y a pas de frontière absolue de ce côté-là. C'est donc un message optimiste que délivre le matérialisme. Les Lumières peuvent progresser et nous faire progresser à partir du moment où nous marions l'action sur les choses et la réflexion sur les choses, sans opposer la théorie et la pratique.
C'est en effet plutôt optimiste, parce que on a souvent, enfin optimiste, et ça me paraît moi personnellement tout à fait réaliste, mais il est vrai que souvent on a ce sentiment de plutôt d'un agnosticisme dominant, le fait qu'en fait on pourra jamais vraiment savoir, et que donc peut-être pourquoi se poser des questions, etc.
Oui,
quelque chose qui domine souvent dans notre société.
Mais c'est une l'histoire montre que ce que vous appelez l'agnosticisme, c'est un vieux mot très savant, hein, qui signifie « on ne peut pas savoir ».
Voilà.
Cet agnosticisme, cette idée que la connaissance est interdite à l'homme, qui vient d'ailleurs de la religion, hein, vous rappelez le mythe du péché originel, il fallait absolument pas que Ève fasse croquer à Adam le fruit de l'arbre de la connaissance. Bon, et bien cet interdit de connaître, tout le progrès humain a consisté à le bousculer sans arrêt. On nous disait à une époque qu'on ne saurait jamais, par exemple, d'où venait la Terre. Aujourd'hui, nous savons quelle est l'origine de la Terre. Peut-être pas dans les plus infimes détails, mais nous connaissons en gros les étapes de la formation du système solaire. Qu'on ne saurait jamais d'où vient la vie. Bon, le vivant est de plus en plus étudié, connu, et les récentes découvertes de Rosetta sur la comète Chury, par exemple, ont appris encore des choses très intéressantes sur l'origine du vivant dans le système solaire, et ainsi de suite. En réalité, les interdits de connaître du style « nous ne saurons jamais » sont remplacés petit à petit par « nous saurons un peu mieux demain ». Et bon, évidemment, nous apprendrons demain que ce que nous croyons être définitif aujourd'hui ne l'était pas, qu'il faut sans arrêt progresser dans le domaine des sciences. Mais bon, ma foi, c'est le sens même de la vie, ça. On bricole et on améliore. Et ben, c'est pareil en science.
Très bien. Alors, petite incise également, un certain matérialisme ou une mauvaise compréhension du matérialisme pourrait faire croire que les matérialistes ne croient pas à l'existence des idées, iraient jusqu'à nier l'existence des idées. Alors, si ça a pu être le cas dans un matérialisme passé, est-ce que vous pouvez justement peut-être nous donner, expliquer ce que disent les matérialistes sur le monde des idées, les relations entre la matière et les idées?
Oui, alors bien entendu, les idées existent. La preuve, c'est que nous sommes en train d'en manier. Et si nous ne croyons pas que nous pensons en ce moment, que sommes-nous donc en train de faire, hein? Donc les matérialistes ne poussent pas l'absurde jusqu'à dire que la pensée n'existe pas, que les idées n'existent pas, ainsi de suite. Ce qu'ils disent, c'est que les idées et les pensées sont les produits d'activités matérielles. En ce moment, nous pensons, certes, mais s'il n'y avait pas à l'arrière-plan les neurones dans notre cerveau qui échangent à toute vitesse des informations par l'intermédiaire, disons, des axones et de toutes sortes de choses comme ça que les biologistes connaissent bien, nous ne pourrions pas penser. Et d'ailleurs, la preuve en est vite administrée. Lorsque malheureusement quelqu'un a un AVC et que son cerveau est partiellement détruit ou irréversiblement détruit, tout le monde voit bien que ses capacités motrices, mais aussi ses capacités de mémoire, par exemple, ou de langage, sont quelquefois détruites. Donc, le lien est évident entre les pensées et les relations matérielles qui sont à l'arrière-plan, notamment le corps. L'idée absurde qu'il y aurait une âme indépendante, totalement indépendante du corps, est aujourd'hui totalement démentie par la neurologie. Nous voyons bien qu'il y a un lien entre la formation des pensées et les processus cérébraux, par exemple. Et plus encore, parce que nous ne sommes pas que des êtres de chair, nous les êtres humains, nous sommes aussi des êtres de société, nous vivons en société, il y a des langages, il y a des cultures, il y a des codes. Eh bien, nous voyons combien nos pensées sont modelées par tous ces codes. Et si nous apprenons à connaître la façon dont fonctionne notre cerveau ou la façon dont fonctionnent les codes sociaux, nous pouvons du coup, comme pour les relations matérielles, arriver à les comprendre et à les dominer, et donc à être libre, à nous émanciper par rapport à tout cela. Voilà donc un petit peu, mais les pensées bien sûr, et les idées existent. D'ailleurs Marx avait une belle formule, il disait quand une idée s'empare des masses, elle devient une force matérielle. Bon, on voit bien que lorsque, je ne sais pas moi, le christianisme, l'islam, ou à d'autres périodes, par exemple les conceptions révolutionnaires, se sont emparées des masses, par exemple lors de la révolution russe, des centaines de millions d'hommes se sont mis en mouvement et ont agi. Et c'était bien à ce moment-là parce que ils étaient pris par un idéal. Le matérialisme ne consiste pas à dire que l'idéal n'existe pas, mais à montrer que les idéaux reposent sur des données matérielles, des rapports de force, par exemple ici, des relations entre les classes sociales.
Très bien, merci. Et alors, on s'achemine rapidement vers la fin, malheureusement, donc je vais devoir voilà, essayer de... Alors, matérialisme, ok. Maintenant, dans la formule, il y a matérialisme dialectique. Alors, la dialectique, on va essayer d'expliquer ce que c'est. Je vous propose peut-être de nous expliquer d'abord à quoi ça s'est opposé. Contre quoi la dialectique s'est construite. Donc, c'est ce qu'on a appelé la métaphysique. Alors, Politzer,
oui.
Nous...
Oui, c'est compliqué, oui.
Voilà, Politzer pointait quatre caractéristiques, on va peut-être pas les développer toutes les quatre. Le principe, peut-être juste parler du principe d'identité et des divisions éternelles et infranchissables, qui sont en fait au fondement la plupart du temps de notre manière de penser le monde au quotidien.
Eh bien, dans la réalité, oui, dans la vie courante, on a tendance à opposer sans arrêt les choses, à les mettre dans des tiroirs, à les mettre dans des petites boîtes et à les laisser bien tranquilles là où elles sont, et donc à avoir une pensée statique, une pensée, disons, qui ne saisit pas le mouvement des choses. Et bon, la pensée dialectique a été inventée justement pour concevoir le mouvement, les transformations. C'est pas un hasard, évidemment, si le marxisme qui voulait penser les révolutions sociales s'est emparé de la dialectique, elle a fait un outil militant, en quelque sorte. Je prends un exemple très simple. On a pu penser pendant longtemps que bon, ben, il y avait des riches et il y avait des pauvres. Alors voilà, chacun dans sa boîte, en quelque sorte. Bon, déjà quelqu'un comme Victor Hugo disait que la richesse des riches est faite de la pauvreté des pauvres. Autrement dit, il les mettait en contact l'une avec l'autre et il les pensait comme un processus dialectique. Bon, pensez, peut-être pour les auditeurs qui nous entendent et qui ont déjà vu comment fonctionnait une batterie, tout simplement. Une batterie, eh bien, c'est le courant qui passe entre un pôle plus et un pôle moins. Bon, eh bien, effectivement, le plus et le moins marchent ensemble. Et c'est l'échange entre ces deux contraires qui permet le courant électrique, c'est-à-dire un mouvement. Eh bien, de la même façon, dans la société, par exemple, entre le pôle, disons, dominant de la société, celui des classes dominantes qui sont riches et exploitent le petit peuple, c'est-à-dire nous, eh bien, et d'autre part, les gens qui travaillent et qui ne gagnent pas lourd, il y a ce qu'on appelle une relation dialectique. Cette relation dialectique s'appelle la lutte des classes. Bon, alors, cette lutte des classes, elle est souvent niée par les gens qui sont au pouvoir, en particulier par l'actuel président de la République, qui veut nous faire croire qu'il va rassembler tout le monde au milieu et qu'il n'y aura plus personne sur les extrêmes, ou presque. Bon, eh ben, nous verrons bien quand il y aura l'abolition du code du travail ou la fin des retraites par répartition et l'affligeante retraite par points qu'il nous propose. Nous verrons bien si dans la rue, il n'y a pas à nouveau des millions de personnes. Ça s'appellera quand même encore la lutte des classes, parce qu'il ne suffit pas de la nier dans sa tête, hein, ça c'est de l'idéalisme justement, pour la faire disparaître dans la réalité. Si l'exploitation disparaissait simplement parce qu'on cesse d'y penser, ça serait merveilleux. Mais ça marche pas plus comme ça que pour les petits lapins dans les chapeaux.
Très bien. Alors justement, est-ce qu'on peut peut-être évoquer un petit peu plus cette idée de qui peut paraître surprenante au départ, c'est l'idée que dans une chose, il y a en fait ce qui permet le mouvement, c'est que cette chose contient une contradiction, des éléments qui sont contraires. Vous avez parlé du cerisier par exemple tout à l'heure. Je crois que c'est un exemple qui est utilisé par Hegel ou par d'autres personnes pour expliquer ce que c'est que cette histoire de contradiction, qu'une chose en fait contient en elle-même ce qui va la détruire.
Eh bien, c'est tout simple, hein. Effectivement, si vous voulez, dans une pensée métaphysique, comme vous disiez tout à l'heure, grand mot pour dire une pensée qui sépare les choses, qui oppose les contraires, qui les met chacun dans une case. Eh bien, une chose est ou bien n'est pas. Être ou ne pas être, comme dirait Hamlet, hein, dans Shakespeare. Bon, voilà, on dit toujours que c'est le comble de la profondeur que ce monologue de Hamlet. N'oublions pas qu'il est à deux doigts de se suicider quand il dit ça, ce qui n'est pas forcément un symptôme très positif. Eh bien, au contraire, dans la réalité, les choses sont et ne sont pas. Elles deviennent, elles cessent d'être ce qu'elles étaient et elles deviennent ce qu'elles n'étaient pas. Et donc, elles passent sans cesse de l'un à l'autre. Prenons un autre exemple très simple, si vous voulez. Il y a une pièce d'Alfred de Musset qui s'intitule « Une porte doit être ouverte ou fermée ». Oui, ça paraît l'évidence même, on appelle ça le principe de contradiction. Hein, ou bien A, ou bien non A. Oui, mais dans la réalité des choses, je suis dans une pièce en sauvant. Tout à l'heure, quand je vais sortir, je vais ouvrir la porte. Donc la porte qui était fermée va être ouverte. Et il va bien y avoir un passage entre les deux où l'ouvert et le fermé vont, en quelque sorte se saluer l'un l'autre, se dire bonjour en quelque sorte, si vous voulez. Et ben voilà, ça c'est le moment dialectique, c'est le moment de la transformation. Chaque fois qu'on commence quelque chose ou qu'on finit quelque chose, vous voyez bien qu'il y a un point de contact entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre l'être et le non-être. Je m'excuse si c'est un peu compliqué pour l'auditeur moyen, mais je pense que tout le monde peut comprendre ça. Nous sommes nés, un jour nous mourrons. Donc, si vous voulez, nous sommes toujours en voyage entre l'être et le non-être. Et bon, il faut l'accepter si on veut vivre joyeusement.
Très bien. Eh bien, écoutez, Georges Gasteau, je vous remercie pour cet échange qui, je l'espère, donnera l'envie à quelques-uns de nos auditeurs de prolonger leur réflexion et de découvrir que la philosophie n'est pas uniquement réservée donc à une élite dominante. Pour ce faire, je propose la lecture, la découverte d'un ouvrage de référence qui est le très 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 simple, qui avait été écrit pour les ouvriers par Georges Politzer, qui s'appelle Principes élémentaires de philosophie, qui est paru chez Delga, qui est reparu chez Delga en 2013. Donc, Principes élémentaires de philosophie de Georges Politzer. Et bien sûr, votre travail, votre somme, Lumière commune, paru en 2016 chez le même éditeur. Je vous remercie. À très bientôt.
Merci à moi aussi.
Au revoir.
Bonjour, Onisso.